Dans le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro de Fils Adam Sirfo. Les titres, près de 88 milliards de francs CFA, c'est le coût des prochaines élections générales de 2021 au Niger. L'annonce a été faite ce matin par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI face aux partenaires du Niger. Détail dans quelques instants. Lancement ce matin par le président Issoufou Mahamadou des travaux de construction de l'hôtel présidentiel le Radisson Blue de Niamey, un hôtel 5 étoiles de 17 étages pour accueillir les chefs d'État attendus à Niamey pour le sommet de l'Union africaine l'an prochain. Le magazine de ce soir se penchera sur l'assistance humanitaire apportée par le CICR aux victimes du conflit né des incursions au Niger des groupes djihadistes dont Boko Haram. Les élections générales de 2021 au Niger coûteront près de 88 milliards de francs CFA. Annonce faite ce matin à Niamey par le président de la Commission électorale nationale indépendante et permanente lors de la deuxième rencontre avec les partenaires aux élections. Les explications de Maître Isaac Souna sur le budget du fonctionnement au micro de Habibou Garba.
Fonctionnement courant de la CENI pour l'ensemble du cycle électoral de 2017-2021, 7 274 491 823 francs. L'organisation des élections locales s'élève à 13 555 180 000 francs. L'organisation des élections législatives et présidentielles premier tour, 13 725 180 000 francs. Organisation des élections présidentielles deuxième tour, 9 751 560 000 francs. Je précise qu'il s'agit d'un projet de budget dont le contenu fait l'objet de discussions en ce moment avec le ministère de l'Intérieur correspondant du gouvernement auprès de la CENI pour les élections.
Maître Isaac Souna, président de la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a officiellement lancé ce matin les travaux de construction de l'hôtel présidentiel Radisson Blue de Niamey. Cet édifice de grand standing sera construit sur le site de l'ancienne direction générale de la douane par la compagnie turque Souma. Selon le ministre du Tourisme, la construction de cet hôtel entre dans le cadre des préparatifs du 33e sommet de l'Union africaine 2019 et aussi une opportunité pour le tourisme. Ahmed Boto sur des propos recueillis par nos confrères de la radio et télévision La Paris.
La construction de l'hôtel présidentiel Radisson Blue de Niamey participe de l'atteinte de nos objectifs en termes d'amélioration des capacités d'accueil et la qualité du service. Elle est aussi l'œuvre d'un groupe d'entrepreneurs de renommée internationale qui est fermement convaincu de l'avenir du continent africain et du secteur du tourisme en particulier. Au Niger, le groupe va construire un hôtel de 5 étoiles pour un montant d'investissement de l'ordre de 45 millions d'euros, soit environ 30 milliards de francs CFA. L'hôtel aura une capacité de 51 chambres, dont 160 chambres standards, 10 suites exécutives, 12 suites juniors, 7 suites longue durée, une suite présidentielle, une suite royale. Il disposera aussi d'un restaurant gastronomique, d'un bar, de 3 salles de réunion, d'un centre d'affaires, d'un SPA, d'un centre de fitness, d'un parking intérieur pour 100 véhicules et d'une piscine extérieure normative. Il permettra également de créer 500 emplois permanents.
Le ministre du Tourisme, Ahmed Boto, que vous venez d'écouter. En bref, poursuite à Difa du procès délocalisé des présumés membres du groupe terroriste Boko Haram, débuté le 3 juillet dernier. Ce vendredi, quatrième jour des audiences, 11 prévenus défilent à la barre pour boucler la liste des 42 accusés d'actes criminels. Hier jeudi, 14 personnes ont été jugées. Parmi celles-ci, 5 ont été condamnées et 9 libérées. Au total, 31 personnes sur 42 personnes ont été jugées en 72 heures entre mardi et jeudi. Sur ces 31 personnes, 21 sont lavées de tout soupçon et libérées, tandis que 10 sont condamnées et restent en prison pour purger leur peine. Le réseau des femmes élues locales du Niger vient d'organiser à Maradi sa deuxième session ordinaire. Pendant 2 jours, les femmes élues ont planché sur l'épineuse question de la participation politique des femmes dans les instances et organes de prise de décision. Détail avec Mohamed Maman.
C'est au centre Gaudia, un centre exclusivement dédié aux femmes, que se tiennent ces assises de la deuxième session ordinaire du Refelon. Pour la présidente nationale de ce réseau, Madame Hama Safia, le choix de Maradi pour abriter ces travaux est symbolique.
Le Refelon, de par sa composition, peut amener les femmes à être des candidates qui gagnent les élections et dirigent les collectivités territoriales. Les femmes ont toujours un rôle important à jouer dans le développement, car elles connaissent bien les problèmes du village et possèdent un sens de réalité et de la gestion qui peuvent être utiles à la commune.
Pour la présidente régionale du réseau des femmes élues locales de Maradi, Sajan Jouna, malgré la poussée des femmes pour intégrer la sphère politique, beaucoup reste à faire.
Vous direz certes que le quota a été observé et respecté, mais aussi et surtout, on pourrait faire davantage et mieux. Vous serez aussi et certainement étonné. Je vous dis que 3 dans 47 communes de la région de Maradi n'ont aucune femme au sein de leur conseil respectif. Il s'agit de Jeratawa, Serkinyama et Gangara.
Au sortir de cette rencontre de 2 jours, les femmes élues locales du Niger espèrent aboutir à des conclusions pertinentes. Mohamed Baman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.
Contribution du système fiscal au niveau local et national à la prise en compte du JAR au Niger, c'est le thème de la conférence publique organisée mercredi à Niamey par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab financée par Oxfam. L'objectif attendu, selon le chargé des projets au Rotab, est d'amener les autorités à consacrer plus de ressources à la promotion du JAR. On l'écoute.
Sur l'ensemble du budget national, le budget consacré au JAR, il n'est que de 0,4%. Et en réalité, dans tout le gouvernement du Niger, il n'y a que 4 ministères qui s'occupent de la promotion du JAR. Il s'agit du ministère de la Population, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé publique. Donc, ensemble, les 3 ministères réunis, le budget qui est alloué au JAR, il ne représente que 0,4% du budget général de l'État. En 2017, bien sûr. Il y a une loi sur la promotion du JAR. Le Niger a ratifié beaucoup de traités internationaux sur la promotion du JAR. Et à tout un bruit qui s'est fait autour de la promotion du JAR. Pour nous, l'objectif attendu, c'est d'amener les autorités à consacrer plus de ressources à la promotion du JAR. Il s'agit d'amener le gouvernement vraiment à respecter ses propres engagements en matière de la promotion du JAR, notamment la loi sur le quota. Vous voyez, elle dit que 15% des postes de responsabilité doivent être octroyés aux femmes. Mais il suffit de regarder dans le gouvernement. Ils sont au nombre de combien? Une quarantaine. Il y a combien de femmes?
Propos recueillis par Anissé Karim. Lors de l'attaque kamikaze du QG du G5 Sahel à Sévaré au Mali le 29 juin, FIDEM, la principale plateforme francophone d'information en ligne basée en Mauritanie, affirme que plusieurs sources révèlent que les auteurs de l'opération meurtrière ont laissé un message codifié à la Mauritanie. Selon FIDEM, qui a traduit le texte de l'arabe, les assaillants ont arraché tous les drapeaux des États membres du G5 du chef de commandement de la force, à l'exception de celui de la Mauritanie qui a continué à flotter. Al-Qaïda, poursuit FIDEM, a rappelé à la Mauritanie qu'elle restera épargnée par l'organisation terroriste tant qu'elle n'a pas pris part aux opérations menées contre elle. Autrement dit, si Nouakchott s'implique aux excursions antiterroristes de la force commune du G5 contre elle, elle subira le même triste sort que les autres États. Toujours en bref, le commandant de la force du G5 Sahel au Mali ainsi que son adjoint ont été relevés de leurs fonctions, nous apprend la voix de l'Amérique, la VOA, captée ce matin à Niamey. Les exactions des soldats maliens du dispositif G5 Sahel contre des civils et l'attaque la semaine dernière du quartier général de cette force à Sévaré seraient les motifs du limogeage du général malien et du commandant en second, un colonel à burkinabé. Un officier supérieur tchadien a été nommé nouveau commandant de la force G5 Sahel, précise la VOA, lors de la concertation des chefs d'État membres du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine à Nouakchott dimanche et lundi. Une mission de l'UNESCO de suivi conseil du Centre historique d'Agadez, composé de 2 experts, a séjourné à Agadez du 27 au 30 juin dernier. L'objectif de cette mission est de voir l'état de la conservation de ce site 5 ans après son inscription au patrimoine de l'UNESCO. C'est l'occasion pour les responsables de la vieille ville de transmettre à la mission des doléances. Ali Salifou, gestionnaire du Centre historique d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Quand vous regardez aujourd'hui la vieille ville, 98% des maisons sont faites en terre. Et malheureusement, ça cause des problèmes parce qu'avant, à Agadez, il ne pleuvait pas beaucoup. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez des fortes pluies compte tenu des changements climatiques. Et nous les avons dit, il faut donc penser à faire un projet intégré, un grand projet, surtout d'assainissement pour permettre à toutes les eaux de pluie de ruissellement, donc leur évacuation en dehors de cette vieille ville. Il faut aussi appuyer les populations pour qu'on puisse réhabiliter parce qu'aujourd'hui, ces populations-là sont pauvres. Ils n'ont pas les possibilités, ils n'ont pas les moyens financiers pour faire des entretien régulier. Il faut donc trouver une stratégie pour qu'on puisse avoir un grand projet intégrateur qui va prendre en compte la conservation pour permettre à ces populations-là de sauvegarder et surtout de réhabiliter leurs maisons. Et nous avons dit de faire un plaidoyer au niveau des partenaires parce que vous savez, d'une manière générale, la culture, c'est le parent pauvre où les jeunes n'interviennent pas. Mais nous pensons que quand l'UNESCO fait des plaidoyers auprès des partenaires financiers, je pense qu'on peut avoir des projets qui peuvent intervenir sur le site-là.
Du sport dans ce journal, les athlètes nigériens participant au championnat d'Afrique de Sambo qui a pris fin le 26 juin 2018 à Hamaten en Tunisie ont gagné plusieurs médailles. Leur performance est à saluer selon Maître Alzouma Hamidou, secrétaire général de la Fédération Nigérienne de Sambo au micro de Tarnan Foudaï.
Nous avons eu une médaille d'argent, la personne d'Adam Moumouni, et une médaille de bronze avec Kadri Issaka, Di Issaka Issaka, que vous connaissez bien. Et en beach sambo, nous avons eu une médaille d'argent et une médaille d'or. Donc vous avez vu, nous sommes partis qu'avec 3 athlètes seulement. Imaginez si nous étions partis en nombre comme les Camerounais, les Marocains, les Tunisiens et autres qui ont les moyens.
Est-ce que votre fédération bénéficie d'un appui des partenaires ou bien des autorités en charge de la question sportive au Niger?
Je suis au regret de vous dire malheureusement non. Nous avons participé à tous les championnats du monde depuis notre création, à tous les championnats d'Afrique, sans le soutien de l'État.
À présent, la partie magazine de cette édition, Lucas Petridis, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR, en fin de mission au Niger, a dans une conférence de presse souligné que la situation sécuritaire de la région de Difa a changé énormément de 2014 à 2018. Le conflit qui était limité au nord-est du Nigeria est devenu une crise sur l'ensemble du lac Tchad, ce qui explique l'assistance aux populations victimes du conflit Boko Haram. C'est ainsi que de janvier 2017 à mai 2018, 154 577 rations alimentaires ont été distribuées par le CICR à 13 197 ménages de Difa. Il est au micro de Adama Dawaki.
La situation humanitaire entre 2014 et 2018 a changé énormément dans le pays. Le conflit qui était jusque-là limité au nord-est de Nigeria a passé plusieurs frontières et est devenu ce qu'on appelle la crise du lac Tchad, avec 4 pays affectés. Un de ces pays, c'est le Niger, et plus spécifiquement la région de Difa. C'est une région qui a donc retenu toute notre attention. La raison de cette priorisation était le nombre très élevé de personnes qui ont été obligées de quitter leur village, leur maison, que ce soit de ce côté de la frontière ou de l'autre, pour se déplacer. Donc des réfugiés, des déplacés internes, mais aussi des résidents de la région de Difa qui ont, dans un esprit de solidarité, accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes. Après le début du conflit en février 2015, le mouvement de la Croix-Rouge s'active pour apporter la protection et l'assistance nécessaires à toutes ces populations. On a bâti une intervention d'assistance, que ce soit en termes de sécurité économique, alimentation.
Il y a une assistance directe alimentaire. On a à peu près 80 000 ménages des bénéficiaires qui sont assistés de manière continue à partir du début du conflit et qui continuent d'être assistés aujourd'hui. Mais à part cette assistance directe, nous avons plein d'autres bénéficiaires qui sont dans des programmes d'agriculture, d'élevage, donc d'une assistance indirecte pour trouver les moyens à survivre et aider aussi les familles. Et de là, on a Agadez, on a Nortawa, on a Tillaberi, on a Difa, plusieurs milliers de ménages. Par exemple, pour les produits maraîchers, nous avons 3600 bénéficiaires en ce moment. Nous avons 85 000 ménages pour la vaccination animale et nous avons dans l'accès à l'eau près de 130 000 bénéficiaires. Il y a des difficultés liées à la sécurité. Nous avons quelques endroits dans le territoire qui ne sont pas encore 100% sécurisés. Nous n'avons pas toutes les garanties de sécurité pour travailler par exemple dans des zones frontalières avec le Mali et le Burkina. Il y a d'autres régions dans la région d'Ifa, notamment les îles du lac Tchad. C'est une région militaire, donc l'accès est interdite. Donc en termes d'accès à la population la plus vulnérable, ça c'est une difficulté pour laquelle on discute toujours avec les autorités civiles et militaires. Après, il y a les difficultés qui sont liées aux faiblesses de l'État par rapport à certains services, comme les services par exemple de santé. Nous savons qu'il y a pas mal d'obstacles pour ces services dans des régions régulières comme Difa et Tillabéri. Donc on travaille ensemble avec les autorités pour pouvoir les aider à garantir ces services pour leur population.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de la presse.